rassemble l'être-langage dans la représentation. Et c'est Phèdre, mettons. Bon, vous en savez. Non, c'est une autre fonction de la littérature. Pourtant, c'est un spectacle, oui. Ce qu'il nous présente, c'est vraiment l'être-langage hors de la représentation. Le murmure anonyme. Le fantastique murmure. Le « on parle ». Bon. Mais enfin, peu importe. Alors, ça parle. C'est une manière de faire commencer le langage, autrement que le « je parle ». Cette fois-ci, on dira, le langage commence avec le signifiant. Et c'est bien ce que veut dire celui qui a dit « ça parle ». Le langage commence avec le signifiant, et comme il y a du signifiant dans l'inconscient, ou comme l'inconscient est signifiant, l'inconscient est structuré comme un langage. Hein ? Et puis, il y a ceux qui disent « le monde parle ». Troisième manière de faire commencer le langage. C'est comme si le monde disposait en silence d'un sens muet. Le monde a un sens muet. Et il appartient au langage de faire lever ce sens, de recueillir ce sens. Le logos est langage qui recueille. Il ne s'agit plus du rassemblement du langage, il s'agit du langage en tant qu'il rassemble le sens muet du monde. Le langage ou le logos en tant que recueil du sens muet des choses. Ce terme chez Husserl, puis chez Heidegger, le développera d'une manière particulière, très particulière, et repris et développé de manière très originale par Merleau-Ponty dans ses œuvres de la fin, notamment dans le visible et l'invisible. Si bien que le langage, d'une certaine manière, ne fait que porter à l'explicite le sens muet qui est déjà dans les choses. Le langage s'adosse au sens muet du monde, il s'adosse à une mutité pleine de sens. Il va être le développement du sens du monde, si bien qu'à travers le langage, c'est le monde qui parle. Le langage commence à la frontière du monde et des mots. C'est l'idée de Merleau-Ponty. Or, ces trois thèmes, par exemple, dans un petit texte de Foucault, l'ordre du discours, ces trois thèmes seront récusés avec une grande violence. Violence, non, avec une grande force. Et Foucault y substitue, mais alors compromet à ce moment-là. En effet, c'est très, très différent. Car, si je traduis en Foucault, la première formule, « je parle », réduit le langage à une direction, la direction des embrayeurs, c'est-à-dire la direction du sujet qui parle. La deuxième, le « ça parle », réduit le langage à une de ses directions, la direction du signifiant. La troisième, le « monde parle ». Réduit le langage à une de ces directions. Cette fois-ci, l'état de monde ou le monde intentionné, visé à travers le langage. Bien, au nom de son principe, Foucault refuse les trois. Quelle est la formule qui correspondra à la dimension du langage indépendamment de ses directions? C'est-à-dire le rassemblement du langage ou le « il y a du langage ». Encore une fois, ça ne peut être qu'on parle. à condition de comprendre que dans le « on parle », qui est le non-commencement du langage, il faut dire que tous les sujets, quels qu'ils soient, tous les « je » possibles et imaginaires et imaginables viendront prendre place. Tous les signifiants viendront faire leur chaîne. Tout ce qu'il y a à dire sur le monde viendra se loger. Mais le « il y a » du langage ne sera défini par aucune de ces directions. Il sera défini par la propre dimension du « on parle », du murmure anonyme, c'est-à-dire de l'énoncé. Je résume les deux points. Vous me direz, on piétine, on ne va pas vite. Tant mieux, on ne va pas vite. Parce que maintenant, éclate la question, on ne peut plus reculer. Et on a les moyens de répondre. On ne peut plus reculer, on a les moyens de répondre. À savoir, première règle, avec des mots, des phrases, des propositions, vous constituez un corpus relatif à votre problème. Deuxième règle, vous dégagez un il y a du langage, un rassemblement du langage, un être langage. Troisième point, vous n'avez plus qu'à prendre la main et recueillir les énoncés. L'action de l'être langage sur le corpus va vous délivrer les énoncés. Vous me direz, vite dit, en effet, d'où notre problème ce sera. Qu'est-ce qu'un énoncé, une fois dit que maintenant nous pouvons estimer, et ça aurait été la séance d'aujourd'hui, avoir les moyens de répondre à la question. La dernière fois, nous n'avions pas les moyens de répondre à la question. Maintenant, nous avons acquis les moyens. Je peux juste dire, pour nous tenter, que, comprenez, tout se passe comme si, pour découvrir les énoncés, il fallait non pas s'en tenir aux mots, aux phrases et aux propositions, il fallait les vendre. Il faut ouvrir les mots, fendre les phrases, fendre les propositions pour dégager les énoncés. Exactement comme on fend une coquille. Alors, nous en sommes là, mais tout d'un coup, je me dis, ah, il est temps de, pendant que je vous tiens, là, ça va être très facile. Donc, ça va être très très facile, ce qu'il nous reste à faire. Vous pouvez encore, vous tenez bien le coup, très bien. Eh bien, je souhaiterais que vous me disiez non, mais vous n'osez pas. Si, il faut. Hein. Je me dis tout d'un coup, mais j'ai pas cessé depuis le début de dire. Vous savez, énoncer, l'énonçable, ce n'est que la moitié du savoir chez Foucault. Il y a l'autre moitié y avoir. Et puis je sens bien qu'il y en a parmi vous qui sont pas déjà qui sont pas d'accord. Et ça m'afflige. Alors je me dis, profitons-en. Car si savoir est fait de deux moitiés, ce qu'on vient de dire pour les énoncés, ça doit aussi avoir son équivalent chez Foucault pour les visibilités. Si ça n'avait pas son équivalent, je ne pourrais plus dire, vous savez, Foucault, il attache autant d'importance à voir qu'à énoncer. Et si ça a son équivalent, et si on peut montrer que ça a son équivalent, à ce moment-là, je triomphe en cachette. Car si ça a son équivalent, c'est que savoir, c'est pas simplement énoncer, mais que c'est vraiment la combinaison de l'énonçable et du visible. D'où, faisons une petite parenthèse, est-ce que Foucault peut nous raconter une histoire analogue et aussi belle à propos du visible ? Oh, pourquoi pas ? Qu'est-ce que ça donnerait, cette histoire ? Ça donnerait l'histoire que voici. Première proposition. Vous savez, les visibilités ne sont jamais cachées. Toute époque voit tout ce qu'elle peut voir. Toute époque fait voir tout ce qu'elle peut faire voir. Seulement faites attention. n'étant jamais cachées, les visibilités ne sont pourtant jamais immédiatement données. Jusque-là, ça va. Hein? Ça, c'est même hein, comme un décalque. Deuxième proposition. Si vous en restez aux choses, ou même aux qualités, ou même aux états de choses, vous n'atteindrez jamais aux visibilités. Vous n'atteindrez jamais aux visibilités d'une époque. Pas plus que les énoncés ne se réduisent à des mots, à des phrases et à des propositions. Les visibilités ne se réduisent à des choses ou objets, à des états de choses ou à des qualités sensibles. Troisièmement, troisième proposition, il faut que vous dégagiez un corpus physique des visibilités. C'est-à-dire, il faut que vous fendiez les choses et les objets pour en dégager les visibilités. Vous formerez votre corpus de visibilité. À quelles conditions ? Quatrième proposition. Ah ! Il faut bien qu'il y ait un « il y a ». Il y a. De même qu'il y a un il y a du langage irréductible à toutes les directions linguistiques, il faut qu'il y ait un il y a irréductible à toutes les directions sensibles, c'est-à-dire phénoménologiques. Qu'est-ce que ce il y a tout simple? C'est le il y a sur lequel Goethe est mort. Le il y a la lumière. Il y a la lumière. Et chaque époque a un être lumière, un mode d'être de la lumière. Et la lumière se rassemble sur chaque époque d'après un certain mode. Ce qui définira les visibilités d'une époque, c'est le « il y a la lumière ». Ou l'être-lumière qui varie d'une formation à l'autre. Et lorsque Foucault, et pourquoi Foucault éprouve-t-il d'un bout à l'autre de son œuvre le besoin de décrire des tableaux ? Qu'est-ce que c'est qu'un tableau pour lui ? C'est un régime de lumière avant d'être un ensemble de lignes et de couleurs. Qu'est-ce qui définit un tableau ? C'est un rassemblement de la lumière. Qu'est-ce qui distingue avant tout, je ne dis pas seulement, mais qu'est-ce, exclusivement, mais qu'est-ce qui distingue avant tout Velázquez et Manet ? Le régime de la lumière qu'il y a dans le tableau de Velázquez, les Ménines, et le régime de la lumière qu'il y a dans le tableau de Manet, le bar des Folies Bergères. Il y aurait un être lumière tout comme il y a un être langage. Et ces deux êtres sont hétérogènes. Si bien que, sous l'être-langage agissant sur un corpus linguistique, vous dégagez les énoncés et les visibilités. Vous allez les dégager lorsque l'être-lumière rencontre un corpus visible. Par exemple, un tableau. Forme un corpus ou un élément d'un corpus. Et qu'est-ce que ce sera la visibilité ? Là, il faut retomber sur nos pieds. Elle ne doit être ni une chose, ni une qualité, ni un état de choses, ni un objet. Est-ce un hasard si le style de Foucault, je ne peux pas dire que ce soit un problème, non. Ça va tellement de soi pour lui, c'est sa manière de vivre. Donc il en parle, il n'a pas tellement besoin d'en parler, il fait mieux qu'en parler. Ça anime tout son style. Tout son style, c'est quoi? Il n'y a qu'une chose qui intéresse surtout, dans l'ordre du visible. Les facettes, les miroitements, les scintillements, les reflets, les éclats. Voilà. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas les choses. En d'autres termes, les visibilités, ce sont les scintillements, les miroitements, les éclats, et non pas les reflets, et non pas les choses sur lesquelles les reflets se forment. En d'autres termes, Foucault, il me semble, à cet égard, est très goethéen, au sens de la théorie des couleurs, lorsque Goethe traite des effets de lumière. Et les visibilités, ce sont les effets de lumière, tout comme les énoncés sont les effets du « il y a langage ». Et est-ce que Foucault le dira explicitement? Oui, dans un texte très important que nous aurons à voir de près, dans le livre intitulé « Raymond Roussel », Foucault nous dit « il y a deux lumières ». C'est juste ce qu'il me faut. Il y a deux lumières. Une lumière première. Il emploie le mot « lumière première », qu'est-ce que vous voulez dire? La lumière première, c'est le « il y a lumière ». Le « il y a de la lumière ». La manière dont la lumière se rassemble. Ça, c'est la lumière première. Et sous l'action de cette lumière première, il n'y a plus de choses, mais les choses se mettent à valoir pour leur scintillement, leur miroitement, leur reflet. Et il félicite Raymond Roussel d'avoir construit toute son œuvre entre la lumière première et les miroitements ou scintillements. Donc je peux dire évidemment, voir est le second pôle du savoir, car voir raconte à sa manière, irréductible à celle de l'énoncé, raconte à sa manière une histoire analogue. De même qu'il faut fendre les mots et les phrases pour dégager les énoncés, il faut fendre les choses et les qualités pour dégager les visibilités. Et de même qu'on dégagera les énoncés lorsque l'on arrivera au point de rencontre, à la jonction, à l'interférence d'un corpus et d'un rassemblement du langage. De même, on découvrira les éclats, les scintillements, les miroitements quand on arrivera à l'interaction d'un corpus physique et d'un rassemblement de la lumière. Alors les choses s'évanouiront pour laisser place aux éclats et miroitements. Exactement comme les mots, les phrases s'évanouissaient pour laisser place aux énoncés. Et la gloire de Raymond Roussel, selon Foucault, c'est d'avoir fait des œuvres de deux sortes. Une première partie de son œuvre, exemple, texte du type, du texte intitulé « La vue », où il s'agit de fendre les choses pour faire surgir les scintillements. Autre type de texte, Impression d'Afrique, où il s'agit de fendre les mots et les phrases pour faire surgir les énoncés. Et ainsi Raymond Roussel, en poésie, a parcouru les deux pôles du savoir et a constitué la poésie comme savoir. N'empêche que maintenant nous nous trouvons devant le troisième point. Bon. Tout ceci étant dit, nous avons les moyens de dégager les énoncés, très bien, tout comme nous avons les moyens peut-être de dégager les visibilités. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé? Il faut que dans notre réponse, nous rendions compte de sa différence avec les mots, les phrases et les propositions. Nous en sommes là, si on arrive là, si on arrive à ça, eh bien, on en aura fini avec qu'est-ce que savoir. C'est vite fini avec qu'est-ce que ça va. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des trucs, quoi? Des... je voudrais que vous pensiez à tout ça, hein, d'ici la prochaine fois, je sais pas moi. Pas de truc. Ça, on verra, ça engage tout l'avenir, tout notre avenir. Pour le moment, il faudra d'abord qu'on assoie très fermement la différence de nature entre les deux. C'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de forme commune. Ça, on n'en est pas encore là. Ça, il faudra bien qu'il y ait quelque chose qui les mette en rapport. Ça, vous avez raison. Eh bien, si vous n'avez rien à me dire... Ouais.
On peut penser à la lumière avant la visibilité. Mais on ne peut pas penser à la linguistique avant ses formes historiques. C'est-à-dire, pourquoi tu n'appelles pas de langue cette chose avant de la rentrer dans l'histoire? Pourquoi tu appelles de linguistique une chose qui n'est pas l'effort historique de la linguistique?
Je comprends pas. Redis, on est tous fatigués. Tu me dis, pourquoi je ne parle pas des langues? Hein?
C'est bien, quand tu parles sur la visibilité, tu dis, il y a une lumière, c'est une matière avant la visibilité. Cette matière apparaît dans le monde, comme les planètes Vénus, frère.
Mais je crois comprendre. Oui, mais...
Sous la linguistique, je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas une linguistique avant ces manifestations historiques. Ça veut dire, il n'y a pas une langue, c'est une matière métaphysique.
Mais pour Foucault non plus, pour la lumière. Il n'y a pas de lumière qui soit relative à une formation historique.
Mais c'est encore physique quand même.
Non, pas pour Foucault. Pas plus que pour Goethe. Ça, si tu me dis, mais la lumière, c'est une réalité physique, tu pourrais dire aussi bien c'est une chose ou c'est un état de choses, etc. Foucault ne traite pas de la lumière en physicien. Ça, alors tu me diras, mais il n'a pas le droit. Je ne sais pas, soit là je te supplie, lis Goethe. Il ne parle pas de la lumière en physicien. Goethe s'explique beaucoup là-dessus. Il parle de la lumière, il nous dit, Newton a parlé de la lumière en physicien. Moi, j'apporte sur la lumière un autre langage. Qu'est-ce que cet autre langage? Remarque, Goethe emploiera le mot de phénoménologie. Il fait une phénoménologie de la lumière. En tout cas, la lumière est absolument pour Foucault, est absolument historique, puisque... L'être physique de la lumière, définissable par Newton ou définissable par Aristote, fait lui-même partie d'un savoir qui est un savoir parfaitement historique. Et si tu dis, mais même avant qu'il y ait des hommes, il y avait la lumière, ben oui, mais il y avait des strates, il y avait des stratifications, il y avait une archéologie, il n'y avait pas d'hommes, mais c'était toujours relatif à une formation historique. Ouais. En tout cas, il ne prétend pas nous faire une physique de la lumière. Ouais. Non, puisqu'il a toujours dit, et là, faut le croire. Non, puisqu'il a dit pour rigoler. Il a dit ce titre, il dit, je cite exactement, il a dit ce titre doit s'entendre, il a écrit ce titre doit s'entendre ironiquement. Il ajoute. Il est évident que les mots ne désignent pas des mots et que les choses ne désignent pas des choses. On ne peut pas dire mieux. Les énoncés sont autre chose que des mots et les visibilités sont autre chose que des choses. Mais alors, pourquoi a-t-il appelé ça les mots et les choses? Je crois qu'il avait une raison, puisque ce serait à la lettre, il faut comprendre le titre, du côté des mots et du côté des choses. Du côté des mots, il y a les énoncés qui ne se réduisent pas aux mots. Du côté des choses, il y a les visibilités qui ne se réduisent pas aux choses.